Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
Tout pour investir, le coach.
Notre coach du vendredi, c'est Félix Rivière. Bonjour Félix.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes responsable des investissements chez Goodvest. Avec vous, on est déjà demain. On est déjà dans un demain qui fait un petit peu peur, post-élection américaine. On se demande s'il faut préparer son portefeuille en anticipation, en anticipant, en attendant. Quel est le bon verbe? Ces élections américaines. D'abord, on est dans une année, super année électorale. Il y a des élections partout. Celle des États-Unis nous intéresse particulièrement. Donnez-nous un petit peu de contexte, Félix.
Ouais, le contexte, c'est celui que vous dressez, Lorraine. C'est 2024, the super election year, hein, comme disent les anglo-saxons, la super année électorale. On a plus de 64 pays qui organisent, ou qui ont d'ailleurs déjà organisé, des élections majeures. Ça représente plus de 2 milliards de personnes qui sont attendues dans les urnes sur la planète. C'est 25% de la population mondiale, 40% du PIB mondial. Donc c'est évidemment une année centrale. Évidemment, l'élection qui cristallise toutes les attentions, c'est l'élection américaine, l'élection présidentielle américaine. Voilà, c'est celle que les marchés suivront de très près.
On a gardé Pierre Chang de la chronique d'avant avec nous. Rebonjour Pierre Chang.
Rebonjour.
Vous êtes gérant au PCVM à la financière de l'Échiquier. On vous garde parce qu'on parlera de portefeuille. On avait envie de profiter aussi de votre regard et puis peut-être de vos anticipations aussi chez vous à la financière de l'Échiquier sur cette année électorale en particulier. Qu'est-ce que vous dites à vos clients? Comment on les prépare?
Là, dans les élections qui arrive, hein. Donc il y a le choix, je pense, pour les sociétés occidentales en tout cas, c'est est-ce qu'on veut de la mondialisation ou est-ce qu'on veut moins de mondialisation. C'est vraiment à chaque fois c'est la grande question. Donc il y a des partis qui se positionnent clairement contre la mondialisation et d'autres pour la mondialisation. Donc je pense que c'est ça la discussion. Maintenant nous dans les fonds, c'est vrai que on sent en tout cas un appétit de la part de nos clients sur des thématiques de souveraineté, des thématiques de investir dans les PME locales, etc. Donc ça on sent vraiment cette demande et c'est vrai que nous du coup dans les portefeuilles, en tout cas moi je m'occupe de la franchise France en tout cas et c'est vrai qu'on le ressent et on l'applique dans les portefeuilles, donc notamment sur les PME où là il y a vraiment une volonté d'orienter l'épargne des nations, l'épargne domestique, de l'orienter vers le tissu économique domestique. Donc ça, on est dans moins de mondialisation et ça, on voit ça aussi. Voilà. Et donc, on a également des acteurs comme dans le luxe, par exemple. On a parlé tout à l'heure du cognac, où on sent aussi une prime de risque qui augmente. Donc clairement, Rémy Cointreau en bourse aujourd'hui évolue plutôt sur des niveaux bas. Bon, il y a plusieurs sujets, mais il y a également ce sujet du protectionnisme qui peut être vraiment très néfaste pour le secteur du luxe qui réalise environ 40% de son chiffre d'affaires en Asie. C'est majeur, donc ce sont vraiment des sujets majeurs.
Félix, vous nous emmenez dans le bureau ovale où beaucoup de décisions, évidemment, ont des répercussions sur l'économie mondiale. Quels sont les secteurs, pour être très très pédagogique, qui sont les plus sujets à impact?
En fait, tous les secteurs vont être un peu sujets à impact là, mais je veux revenir effectivement sur le stress ou l'anxiété que ça peut amener ces élections américaines. Il y a une étude, j'ai vu ça hier soir, du gérant d'actifs américain Janus Anderson qui a été menée en fin d'année dernière, fin 2023, qui montrait clairement. Alors ils ont fait leur étude, ils ont sondé 1000 épargnants américains qui détiennent au moins $250,000 d'actifs investis. Ces investisseurs, ils sont quand même un petit peu inquiets. Des élections qui viennent cette année, il y a 50% d'entre eux, 49% exactement, qui s'inquiètent pour leurs finances des résultats de l'élection américaine. C'est assez loin devant, par exemple, un risque de récession. Seulement, entre guillemets, 30% d'entre eux sont inquiets du risque de récession pour l'évolution de leur portefeuille. Donc ça, c'est un contexte. Après, ce contexte d'anxiété, évidemment, il est un petit peu, parfois, irrationnel. Il faut aussi se repositionner un petit peu dans le temps. Si on regarde sur une période très longue, l'indice large américain qui est le S&P 500, entre 1937 et 2022, globalement, il augmente de 12,5% par an en moyenne.
Mais
sur la période.
Pendant les années d'élection, ça donne quoi?
Mais c'est un petit peu moins. Pendant les années d'élection, c'est seulement avec des gros guillemets, 9,9%. Hein, c'est quand même très important. Donc on voit clairement que cette inquiétude dont on parle juste avant, elle est parfois un petit peu irrationnelle. Et en fait, cette volatilité qui s'accroît un petit peu les années d'élection, bah, c'est pas non plus une raison majeure en fait qui pousse les investisseurs à sortir des marchés.
Bon, quoi qu'il en soit, quand on est investi sur les marchés et qu'on n'est pas un trader intraday, l'idée c'est quand même de rester sur le long terme. Donc l'inquiétude n'est jamais une raison de sortir des marchés, Pierre.
Plutôt même souvent une source de une opportunité de rentrer. Hein. Ce que je remarque aussi, c'est que dans les donc en Europe, on va avoir les élections européennes cette année, et donc c'est intéressant à chaque fois de voir les centres d'intérêt principaux, les préoccupations de l'opinion à chaque fois. Et donc ce qui est vrai, c'est que depuis la crise de Covid, ce qu'on a vu, ce qui m'a marqué moi, mais je ne sais pas si vous notez la même chose aussi aux États-Unis, mais il y a la crainte environnementale qui a reculé dans le classement des préoccupations. On reconnaît aussi que les premières préoccupations, c'est la sécurité, l'immigration, le pouvoir d'achat. Et ce qui est assez loin derrière, c'est le déficit ou le niveau de dette, qui sont des sujets qui ne sont pas du tout gagnants politiquement. Et donc, c'est vrai que là, bon, on a eu pas mal d'histoires, enfin, d'actualités riches sur le déficit français, mais aux États-Unis, on est aussi sur des niveaux d'endettement élevés, et ce n'est pas une préoccupation de l'opinion. Et donc, la question, c'est comment on va régler cette grande question de l'endettement si l'opinion s'en désintéresse. Ça aussi, ça va être un sujet qui va être intéressant à suivre au cours des prochaines élections cette année.
Bon, tâchons d'être pragmatiques. Félix, vous êtes notre coach aujourd'hui. On va faire deux scénarios. Un scénario où c'est Trump qui gagne, un scénario où c'est Biden qui gagne. Et donc, des secteurs ou des classes d'actifs qui peuvent tirer leur épingle du jeu, différentes classes d'actifs, différents secteurs qui peuvent tirer leur épingle du jeu en fonction des deux scénarios. Pierre, on commence par Trump ou pas Biden qui gagne ?
Volontiers, Trump.
Allez. Ouais. Alors racontez-nous, si Trump gagne, Félix, à quoi va ressembler, si on résume évidemment, la politique de Trump V2, si je puis dire ?
Oui, alors Trump V2, c'est quand même un Trump V1-like, hein, ça va ressembler. Et donc la politique qui va se dessiner vraisemblablement, c'est à la fois une politique qui sera ultra-libérale sur notamment la déréglementation, sur les économies d'impôts, et c'est assez ambivalent d'ailleurs, mais aussi ultra-protectionniste, notamment vis-à-vis des industries nationales et du consommateur américain. Hein, ça, c'est les grandes lignes quand même côté Trump. Et dans ce cadre-là, les secteurs qui devraient tirer leur épingle du jeu, bah, c'est bien sûr les secteurs qui sont en lien avec ce qu'on appelle la vieille économie, les énergies fossiles notamment. Deuxième secteur qu'on peut citer, c'est celui de la finance. Le secteur financier devrait aussi tirer son épingle du jeu dans un contexte où on sait que Trump est tout à fait capable d'avancer sur des sujets d'assouplissement en termes de régulation. Il y a peut-être un troisième secteur qu'on peut citer qui est le secteur de la défense, mais qui probablement, c'est moins franc en tout cas que sur les deux premiers exemples, parce qu'on voit quand même que les démocrates, de manière générale, et Biden sont aussi attachés au protectionnisme de ce secteur de la défense.
Pierre ?
Il y a un secteur qui pourrait souffrir, c'est les semi-conducteurs. Parce que c'est vrai que Trump a plutôt fait comprendre que Taïwan n'était pas pour lui un sujet à défendre contre vents et marées. Et donc s'il y avait une tentative des Chinois, du continent, de prendre le contrôle de Taïwan, en tout cas pour le secteur de semi-conducteurs, ça serait un choc, puisqu'on a TSMC qui est basé à Taïwan et qui est l'un des principales fonderies mondiales. Et donc là, ça pourrait vraiment provoquer une onde de choc assez importante dans le monde des semi-conducteurs. Nous, en Europe, on a notamment ASML, qui est vraiment notre champion européen, qui vend des équipements pour les usines qui fabriquent des semi-conducteurs, et donc qui est aussi régulièrement en tête d'affiche sur les valeurs qui pourraient être pénalisées par ce genre de mouvement.
Question importante, est-ce que l'IRA serait remis en cause, et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, investisseurs particuliers, épargnants de ce côté-ci de l'Occident ?
Ouais, ça c'est une vraie question.
De l'Atlantique, pardon.
C'est une vraie question côté États-Unis. L'IRA, c'est donc l'Inflation Reduction Act. C'est un plan massif, notamment d'investissement, qui a été lancé là sous la présidence Biden, qui vise notamment à investir près de 380 milliards de dollars dans la transition énergétique. Évidemment, on peut se poser la question, est-ce que Trump va couper dans ce plan ? Rien n'est moins sûr pour l'instant. Cela dit, les analystes commencent à penser que ce sera probablement pas le cas, ou en tout cas dans une moindre mesure, notamment parce que ce plan, il est aussi pourvoyeur d'emplois, massivement, des emplois qui sont des emplois industriels, qui sont des emplois américains, non délocalisables, et ça, malgré tout, Trump aime.
D'accord, Pierre, sur l'IRA ?
Ouais. Il y a aussi un autre secteur que je trouve très intéressant, c'est le secteur des mines. Des mines de fabrique, enfin de production de minerais en tout genre, de matières premières, où là, effectivement, il y a une vraie volonté de devenir de moins en moins dépendant de pays qui sont moins alignés avec l'Occident. Et donc là, en tout cas, en Europe, il y a notamment une réglementation qui est arrivée en Europe là, pour essayer de relancer la souveraineté sur ce genre de sujet. Et donc, c'est pour ça que nous, on vient de lancer un fonds sur les matières premières de la transition énergétique et qui pourrait également profiter de cette ambiance un peu protectionniste, de volonté d'investir dans ce secteur.
Voilà, on anticipe les élections américaines. Évidemment, on se met dans notre portefeuille d'investissement. On ne parle ni de politique tout à fait, ni d'humain. On parle strictement, au sens strict, de finances et d'impact sur nos portefeuilles. Maintenant, on va faire le deuxième scénario. Si Biden gagne, quelles seraient les grandes lignes de sa politique à lui aussi, finalement, V2, puisqu'il s'agirait d'un deuxième mandat, Félix Rivière.
Biden V2, c'est effectivement une continuité de V1 également. Et donc, la continuité de V1, c'est quoi? C'est évidemment des idées beaucoup plus progressistes hein, que côté Trump, avec comme axe majeur la durabilité, les soins de santé, la transition énergétique. Et donc, effectivement, dans ce cadre-là, on aurait des secteurs assez différents qui seraient probablement, qui sortiraient vainqueur entre guillemets ces prochaines années. C'est d'abord et avant tout le secteur de la transition énergétique, c'est clair. Et le deuxième grand secteur, c'est le secteur de la santé. Et effectivement, qui devrait aussi tirer son épingle du jeu si Biden fait un deuxième mandat.
Énergie renouvelable, infrastructure verte, et les infrastructures, Dieu sait que les États-Unis en ont besoin, et des neuves, et puis secteur de la santé. Alors maintenant, à vous écouter Félix et vous Pierre, l'idée c'est que quand on gère son portefeuille, on a envie, quelque part, de le décorréler de l'actualité, de le décorréler des risques que ces élections vont apporter. Qu'est-ce qu'on fait ?
Ce qu'on fait, là, c'est le maître mot hein, qui perdure, c'est la diversification. Hein, c'est le meilleur allié quand même des investisseurs pour faire face à de la volatilité, des variations de marché un petit peu accrues, notamment en période d'élection, pourquoi pas. Donc on reste évidemment sur une diversification et on peut penser à quelques pistes quand même qui effectivement permettent de décorréler hein, les portefeuilles par rapport à une volatilité un peu accrue. Peut-être on peut déjà penser à accentuer la pondération sur les actifs européens plutôt que américains, hein, et notamment profiter, on en parlait tout à l'heure sur ce plateau, d'actifs européens qui sont aussi moins valorisés. Hein, les ratios de PE sont quand même beaucoup moins importants qu'aux États-Unis. Le S&P, je crois que ça s'échange autour de 20 fois les bénéfices en ce moment. Sur le CAC, par exemple, on est plutôt autour de 14 fois les bénéfices. Donc on a des ratios de valorisation qui sont effectivement plus intéressants, en tout cas moins élevés en Europe qu'aux États-Unis. Premier axe. Deuxième axe, on peut aussi penser à repondérer un petit peu les instruments de taux et notamment les actifs obligataires, que ce soit des obligations d'ailleurs cotées ou non cotées. Hein, les deux sont tout à fait envisageables. Traditionnellement, les obligations, c'est des actifs qui sont quand même moins exposés à la volatilité que les actions. Et nous, chez Goodvest, d'ailleurs, on a une petite préférence pour tout ce qui est investment grade, hein, donc des actifs obligataires plutôt sécurisés, bien notés, parce qu'elles profitent d'un rendement assez important en ce moment.
Bon voilà, vous l'avez entendu, on diversifie, on pondère, on augmente la pondération des actifs européens et puis des actifs obligataires. Deux pistes, on continuera à faire ce sujet si vous le voulez bien dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Et puis on aurait pu aussi parler de miser sur le non-coté. Comme ça, on est aussi sur une autre gamme d'actifs pour nous, investisseurs. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Pierre Chang d'être resté un petit peu plus longtemps et d'avoir posé aussi votre regard sur ce sujet. Merci Félix d'avoir été notre coach sur ce sujet.